Il est 11h. 11h.
Radio Open FM vous présente Mon corps et moi. Le rendez-vous des médecines douces et naturelles. Avec Jacques Bocquet. Magnétiseur.
Et c'est donc confirmé, Jacques Bocquet est bien avec nous. Salut Jacques.
Salut Seb.
En pleine forme.
Oui, ça va être difficile de prendre la place de passer derrière Jean-Manu, ça va être un peu compliqué.
Il a mis la barre haute.
On va parler d'un sujet un peu plus grave, mais c'est ça. Il en faut.
Pourquoi pas des techniques de médecine douce aux toilettes? Je ne sais pas, il y a peut-être des choses à explorer en même temps.
Il y en a qui ont déjà essayé de se suicider avec des laxatifs, mais ça marche pas.
C'est ça. Ah, on est dans le festif ce matin, voilà. On le dit. En tous les cas, plein de choses avec toi. Comme d'habitude, une émission en direct, donc interactive pour tous ceux qui souhaiteraient poser des questions, intervenir, interagir. Voilà, porter les croissants aussi. On fait le café, comme d'habitude.
Bien sûr.
05 55 56 21 44 pour intervenir. On parlera de plein de choses dans cette émission. On est en direct ensemble jusqu'à midi, mais on va commencer, c'est la tradition, avec un peu de musique. Voilà. Puisque tu n'as pas fini ton croissant, je n'ai pas attaqué le mien, donc rien ne va plus. Voilà. On va écouter The Sound, le groupe de 1975, que je ne prononcerai pas en anglais.
Tu sais de pas mettre un extrait de concert qui dure 59 minutes, pour mettre le temps de faire une émission.
C'est ça, faire une petite bricole.
Voilà.
A priori, 4 minutes, c'est le seul temps que tu auras pour ton café et ton croissant. Et on se retrouve.
Il va quand même s'activer.
Voilà, à tout de suite sur Open FM en direct.
Mon corps et moi. La technique de la semaine.
Ah bon, on commence direct dans le dur, hein.
Direct en tête dans le mur. Direct.
Technique de la semaine, alors que je ne sais absolument pas ce que nous allons faire ce matin. Nous sommes en freestyle. Est-ce que au moins Jacques le sait?
Pas plus que toi.
Pas plus que moi, c'est embêtant. Ce que je sais, c'est que je vais boire le café tranquillement, manger un croissant, puisque là, je suis en sas de décompression, hein. Moi, je suis surtout là, entre oui. 7 et 11. Après, je commence à passer la main gentiment.
Je sens bien ce qui va se passer là.
Voilà. Tu vas être en roue libre. Voilà. Pour nous parler médecine douce, naturelle, voilà. Bien-être, évidemment, hein. Ça, c'est le cœur de ce rendez-vous. Quoi qu'il arrive, on évoque des thématiques, on évoque des techniques. Oui. Parfois, l'actualité, également. Est-ce que tu as quelque chose qui te titille déjà pour commencer cette émission aujourd'hui?
Oui. Alors, l'actualité, bon, vous avez vu que la semaine dernière c'était un peu compliqué. Alors en fait,
c'était pas léger la semaine dernière.
Donc on s'est fait, je me suis fait vraiment avoir. Donc persuadé que je trouverais de l'essence sur la route entre l'Ubersac et Ambazac, il y a quand même 80 km. Donc,
c'est ça. Et donc, enfin un peu quand même.
Par l'Ubersac, tout ça, et puis j'arrive, voyant comment ça s'allumait, je dis bon, il y a une station sur l'autoroute, je dis bon, mais tant pis pour une fois. Et en fait, c'est la seule station où ils avaient décidé d'équiper toutes les caisses de cartes bleues. Ils avaient tout bloqué. Mais par contre, il n'est pas signalé.
Voilà. Donc, tu n'étais pas seul dans la galère.
Donc, ils sont gentils, mais la prochaine fois, si vous pouviez mettre un petit panneau, station fermée. Voilà. Et donc, on arrive par, t'imagines, sur l'autoroute, les camions, les voitures, les trucs, les papis, les mamies qui sont plus où ils en sont. Et donc, voilà. Donc, bloqué, obligé de faire demi-tour, retourner chercher de l'essence à l'Ubersac. Je ne me suis pas senti le courage de taper le 180 pour être à l'heure.
Voilà, c'est ça.
Donc, voilà. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai passé un petit moment là, vous savez tous maintenant qu'il y a cette fameuse boutique à l'Ubersac, et donc j'ai passé un petit moment où là ça avançait pas trop, il y a eu les fêtes de fin d'année, j'étais un peu feignant, je bougeais pas trop, je digérais mes crottes en chocolat, tout ça, c'était un petit peu compliqué. On avait fait d'ailleurs une émission sur la crise de foie. Et puis d'un coup j'ai reçu du matériel, j'ai reçu des étagères, des poteaux, quasiment tout
est
posé. Les radiateurs sont arrivés, la porte coulissante qui va séparer le bureau de la boutique est arrivée, et du coup là il y a une espèce d'effervescence, et en fait ça c'est marrant parce que c'est souvent comme ça, il y a les choses sont bloquées, on ne sait pas pourquoi. Mmh. Et puis d'un coup, sans explication, sans préavis, sans rien,
ça débloque trop.
Et voilà, et ça part à fond. Et donc à un moment donné, ben, alors, c'est un petit peu ce qu'on dit dans cette émission depuis le début. C'est-à-dire qu'il faut se préparer à des changements dans la vie et il faut lâcher prise. Et quand ce changement arrive, le problème, et malheureusement c'est fréquent, c'est que les gens ont tendance à freiner. C'est-à-dire qu'en fait, on se prépare à un changement.
Et après, ça nous fait peur. Chose,
voilà. Et après, ça nous fait peur. Et on nous oblige à, quelque part, à sortir de notre zone de confort. Et la sortie de cette zone de confort provoque une peur. Et souvent, des gens qui disent, voilà, je vais monter une boutique, je vais me marier, je vais. Et au dernier moment, ils disent non. Et le problème, c'est que
après, malheureusement,
ils regrettent. Après, ben, c'est pas parce qu'on a dit non demain que après-demain on a à nouveau l'opportunité. Mmh. Donc des fois on est obligé d'attendre quelques semaines ou quelques mois et c'est très compliqué dans l'esprit humain. Donc voilà. Et donc quand les choses arrivent, ben, essayez de lâcher le frein à main et d'être prêt. Et ça sera très important pour la suite.
Et donc tu es en plein dedans. Donc...
Voilà, je suis en plein dedans.
Bien compris. Donc ça a été un mal pour un bien la semaine dernière. Ça t'a permis de faire des choses.
Voilà.
J'ai pas vérifié encore, mais je vais demander les preuves dans un instant pour vérifier qu'il n'est pas venu la semaine dernière, mais que ça a au moins avancé du côté des travaux. Pour que vous puissiez ensuite aller profiter de cette boutique qui va s'enrichir, hein, voilà. On en reparlera tout à l'heure en fin d'émission, mais on avait déjà parlé d'encens, huiles essentielles, il y aura plein d'autres choses,
des pendules. Il y aura des ateliers aussi qui vont démarrer avec les pendules.
Tu avais dit en février, hein, donc février, je ne veux pas te faire peur, mais c'est après-demain, quand même. Donc,
J'aime bien quand tu me mets la pression.
Voilà, c'est ça, je suis là pour ça. Donc on reparle de tout ça tout à l'heure, voilà. Mais en attendant, écoute, puisque tu es là et après 15 jours d'attente pour nos auditeurs, de quoi allons-nous parler pour démarrer cette émission?
En fait, l'enchaînement était tout trouvé, puisque le problème d'attendre quelque chose, ça provoque une espèce de montée de tension.
Ouais.
Ça peut provoquer éventuellement du stress, ça peut provoquer une insomnie, ça peut provoquer un désagrément au niveau de l'appétit, de la digestion, parce qu'on est là, on est fébrile, on attend et tout. Mmh. Et ben ça nous amène directement au sujet de ce matin, ça peut aussi provoquer un AVC.
Oui, donc ce sont des choses graves, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup dit que c'était, on revenait toujours au stress, mais le stress, il peut avoir aussi des, parce que c'est vrai que bon, c'est pas agréable d'être stressé au quotidien, mais ça peut avoir des conséquences effectivement dramatiques, jusqu'à l'AVC effectivement, et donc évidemment là on est là nous pour positiver.
Oui.
là, même si on va expliquer effectivement le mécanisme, mais on va être là aussi pour essayer de vous dire bah, comment faire pour éviter que ça vous arrive, bien sûr.
Et alors j'ai trouvé des choses très intéressantes parce que justement il y a pas forcément de technique de médecine douce qui empêche un AVC. Par contre, il y a des techniques de médecine douce qui peuvent travailler sur le stress et la décontraction et la baisse de tension pour éviter justement d'en arriver à l'AVC. Donc c'est quand même important. Par contre, ce que je voudrais signaler, c'est que attention, parce que cette émission ce matin, c'est pas parce que vous allez avoir mal à la tête dans la matinée que vous êtes forcément sujet à l'AVC. Donc prenez quand même les choses tranquillement et voilà, ne paniquez pas parce que vous aurez un des symptômes qu'on va énumérer parmi une dizaine. Donc voilà, c'est pas parce
c'est bien d'être informé, mais voilà, il ne faut pas être hypochondriaque pour autant.
Tout à fait.
Donc restez zen. Alors, on commence par le descriptif donc de ce à quoi correspond et les signes peut-être annonciateurs d'un AVC.
D'accord.
Donc accident vasculaire cérébral.
Voilà, donc AVC ou attaque cérébrale est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. Il survient à la suite de l'obstruction ou de la rupture d'un vaisseau sanguin et provoque la mort des cellules nerveuses qui sont privées d'oxygène et des éléments nutritifs essentiels à leur fonction. Chez la majorité des gens, il n'y a pas de signe précurseur d'une crise. Toutefois, plusieurs facteurs de risque peuvent être surveillés. Les AVC ont des conséquences très variables. Plus de la moitié des gens en gardent des séquelles. Environ un individu sur 10 récupère complètement. Donc c'est quand même très grave. Les signes que l'on connaît, les séquelles que l'on connaît le plus, c'est une perte de mobilité, une espèce de parasie au niveau du visage, un problème d'élocution, un problème d'équilibre. Donc voilà, la gravité des séquelles dépend de la région du cerveau atteinte et des fonctions qu'elle contrôle. Plus la région privée d'oxygène est grande, plus les séquelles risquent d'être importantes. À la suite d'un AVC, certaines personnes auront des difficultés à parler ou à écrire. Ça s'appelle l'aphasie et des problèmes de mémoire. Elles pourront être aussi atteintes d'une paralysie plus ou moins importante du corps. Les signes d'AVC, c'est une urgence médicale. Attention, parce que là, on parle quand même d'un sujet très grave. Donc, les cellules nerveuses sont privées d'oxygène, ne serait-ce que pendant quelques minutes. Elles meurent, et ne se régénéreront pas. Aussi, plus les délais entre l'AVC et la prise en charge médicale sont courts, plus le risque de séquelles graves s'amenuise. On parle de, par rapport à ce que j'ai entendu dire et ce que les gens disent souvent, il faut maximum 20 minutes entre le début de l'AVC et l'intervention des services de secours.
Donc, faut être réactif.
Faut être très réactif. Il faut pas hésiter à faire le 15 et le 18, c'est appeler le SAMU carrément, parce que Mais donc c'est quand même assez grave.
Ce qui est bien aussi, c'est des formations, parce que c'est vrai qu'il faut être attentif à soi-même, mais c'est bien que les gens autour puissent aussi comprendre rapidement ce qui se passe pour pouvoir agir rapidement aussi.
C'est pour ça que au début, j'ai dit, on va énumérer un petit peu les signes avant-coureurs de l'AVC, mais c'est pas parce que vous avez un de ces signes que vous êtes obligé d'aller courir aux urgences.
Vu le nombre de fois où je bafouille, j'accroche sur les mots dans cette matinale, j'aurais de quoi m'inquiéter depuis très longtemps.
Depuis très longtemps.
Donc voilà, on va rester zen.
Alors, quelles que soient les causes, quels que soient les dommages causés par la privation d'oxygène, le cerveau a une certaine capacité d'adaptation. Les cellules nerveuses saines réussissent parfois à prendre la relève des cellules mortes si elles sont stimulées par différents exercices. Alors, les causes. L'athérosclérose, c'est-à-dire la formation de plaques de lipides sur les parois des vaisseaux sanguins, est l'une des principales causes de l'accident vasculaire cérébral.
On en a parlé avec la diététicienne.
Voilà.
On en a parlé lundi. Dans les semaines précédentes.
Loupé cette émission en plus.
On est raccord en tous les cas.
Ah, on est raccord. Bon, Laura, pardon, je n'ai pas écouté ce jour-là. J'étais.
Tu as les podcasts sur le site de la radio.
Oh, mais bien sûr.
Pas d'inquiétude.
Comme vous avez aussi le podcast de cette émission.
Exactement.
Que vous pourrez télécharger à partir de midi.
De midi 5.
Midi 5. Et qu'on retrouve en plus sur mon site. Donc.
Aucune excuse de ne pas suivre cette émission.
Merci la technique et merci OpenFM de mettre autant de moyens à ma disposition. L'hypertension artérielle est aussi un facteur de risque important. Avec le temps, la pression anormale exercée par le sang sur la paroi des vaisseaux sanguins peut provoquer leur rupture. Et là, on va parler aussi de quelque chose qui est très intéressant par rapport à ça. La rupture d'une artère du cerveau peut être facilitée par la présence d'un anévrisme. L'anévrisme est un gonflement d'une petite section d'une artère en raison d'une faiblesse de la paroi. Et là, donc, on parle de faire monter la pression dans les tuyaux. Et la première chose qui fait monter la pression dans les tuyaux, c'est la colère.
Le stress, d'accord. Bon, après,
Et quand les gens sont coléreux et qu'on dit qu'ils sont sanguins, c'est-à-dire qu'ils font monter vraiment et quand ils sont en colère, ils deviennent tout rouges, ils se mettent à hurler et tout, n'oubliez pas une chose, c'est que vous faites monter la pression dans les tuyaux. Il n'y a pas besoin d'être un plombier qualifié pour savoir que si le tuyau, il y a plus de pression dans le tuyau que le tuyau, ce qu'il peut encaisser, il y a la rupture du tuyau.
Quand on dit tu vas péter une durite.
Voilà.
C'est imagé, mais.
C'est imagé, mais en même temps, on est toujours dans cette histoire de oui, si tu continues, tu vas péter une durite.
Ouais.
Il suffit que la personne qui soit un petit peu colérique, et en plus des problèmes d'hypertension, de stress, je veux dire, on est dans un débordement, sauf que à un moment donné, Il y a quand même 212 km de vaisseau sanguin dans le corps, mm-hmm. ce qui n'est pas rien, sur un nombre normal de 1m70.
Très bien fléché d'ailleurs, hein. Moi je trouve que c'est bien foutu. Hein.
Voilà, c'est bien foutu, mais le problème c'est que souvent, ben voilà, la petite colère en trop, la petite crise en trop, ben va faire qu'il y aura une petite alerte. Alors, il y a peut-être des gens même qui font des micro-AVC qu'ils ne savent même pas, parce qu'il n'y a pas forcément de séquelles, ça dure 5 secondes. Mais ce que je veux dire, c'est que si on est bien à l'écoute, entre l'hypertension, la colère, le stress, les lipides qui bouchent les artères et le reste, ça fait beaucoup.
Voilà, donc détendez-vous, soyez zen, et voilà, il y a des choses très graves dans la vie et d'autres qui ne méritent pas forcément qu'on se prenne la tête, c'est le cas de le dire. Donc voilà.
Il n'est pas toujours quand même possible de déterminer la cause exacte d'un AVC. Il est important cependant que les médecins la recherchent en procédant à divers examens afin de réduire le risque de récidive surtout. Mmh. Donc ce qu'on appelle la prévalence, grâce aux avancées en matière de prévention, la prévalence des AVC a considérablement diminué au cours des dernières années. Depuis les années 1990, elle semble toutefois se stabiliser. Encore aujourd'hui, au Canada, plus de 50 000 personnes subissent un AVC chaque année et environ 14 000 personnes en meurent. Et ce sont à peu près les mêmes chiffres en France.
Ce n'est pas anodin, hein, c'est des chiffres quand même qui sont très importants.
Et je ne sais pas s'il n'y a pas plus d'ailleurs de morts que par accident sur la route ou un truc comme ça. Mm. Parce que les accidents, les morts sur la route arrivent quand même très loin derrière la crise cardiaque, derrière l'AVC, derrière l'alcoolisme qui tue aussi beaucoup de gens.
Et comme c'est dû au stress, etc., on se dit que ça va, au vu de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est des choses qui sont amenées à se développer de plus en plus. Donc ça veut dire qu'il faut aussi, y a des choses sur lesquelles on n'aura pas de maîtrise. Hein, sur la vie, le monde en général, c'est vrai que c'est compliqué d'agir, mais déjà si dans notre quotidien on apprend à se détendre, à pas se stresser, à pas se prendre la tête, déjà c'est toujours ça de gagner quoi dans l'idée.
Ouais. Alors là on dit quand même que les AVC sont peut-être plus rares que les crises cardiaques, mais représentent quand même la troisième cause de mortalité. Ils sont un facteur important d'incapacité donc physique et mentale. Donc c'est quand même vraiment.
Oui, il y a la mort et il y a aussi les séquelles, hein, pour ceux qui s'en sortent. Hein, oui.
Donc les trois quarts, alors on parle là aux États-Unis et au Canada, les trois quarts des AVC surviennent chez des gens âgés de 65 ans et plus. Donc ça va, ça me rassure, j'ai pas encore l'âge. Et ils touchent plus les femmes que les hommes, c'est marrant parce qu'on aurait pu penser le contraire. Mm-hmm. En fait. C'est vrai qu'il n'y a pas de chiffre exact, mais quand je suis, comme tout le monde le sait, je me suis fait opérer du cœur il y a 4 ans. Et en fait, on était à peu près une quarantaine d'opérés. Sur les 40, il y avait 2 femmes. Il y en était 38 hommes. Mais par contre...
Alors, les hommes sont plus touchés en Limousin, alors. C'est voilà. Pas de bol, ça.
Et alors, ce qui était quand même marrant, c'est qu'il y avait des hommes vraiment très très jeunes. Il y avait des moins de 30 ans, qui étaient déjà touchés par un infarctus. Donc, sur les AVC, on verra. Et je pense qu'il va y avoir des chiffres qui vont sortir, mais voilà. En tout cas, on distingue 3 types d'accidents vasculaires cérébraux. Les 2 premiers sont causés par le blocage d'une artère cérébrale, ce qu'on appelle un accident ischémique. Ils sont les plus fréquents et représentent environ 80% des AVC. Et le troisième est causé par une hémorragie cérébrale. Donc, c'est un accident hémorragique. Alors, la thrombose cérébrale, elle représente 40 à 50% des cas. Elle se produit quand un caillot sanguin se forme sur une artère cérébrale, sur une plaque de lipides, donc ce qu'on appelait tout à l'heure l'artérosclérose. Mmh. L'embolie cérébrale, elle représente environ 30% des cas. Comme dans les cas de thrombose, une artère cérébrale est bloquée. Cependant, ici, le caillot qui bloque l'artère s'est formé ailleurs et a été transporté par la circulation sanguine. Il provient souvent du cœur ou d'une artère carotide. L'artère qui, je vous rappelle, est dans le cou. Mmh. Et donc, troisième, l'hémorragie cérébrale, elle représente entre 10 et 20% des cas. C'est la forme d'AVC la plus grave, souvent causée par une hypertension de longue date. Elle peut aussi résulter de la rupture d'une artère du cerveau, là où se situe donc un anévrisme. En plus de priver la partie du cerveau d'oxygène, l'hémorragie détruit d'autres cellules en exerçant de la pression sur les tissus. Elle peut se produire au centre ou à la périphérie du cerveau, tout juste sous l'enveloppe crânienne. Parmi les autres causes plus rares d'hémorragie cérébrale figurent les crises d'hypertension, une hémorragie dans une tubeur cérébrale ou des problèmes de coagulation sanguine. C'est quand même important. Il peut arriver que l'obstruction d'une artère cérébrale ne soit que temporaire et qu'elle se résorbe naturellement sans laisser de séquelles. On appelle ce phénomène accident ischémique transitoire ou mini-AVC. Le diagnostic est confirmé par une IRM. Les symptômes sont les mêmes que ceux d'un vrai AVC, mais ils disparaissent en moins d'une heure. Une mini-AVC est un signal d'alarme à prendre au sérieux. Il peut être suivi d'une attaque cérébrale, parfois beaucoup plus grave, au cours des 48 heures suivantes. Il est donc très important de consulter un médecin au plus tôt. Et on le rappelle, le but de cette émission n'est pas de faire un diagnostic. Surtout, allez voir un médecin, n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à prendre un traitement, n'hésitez pas à faire tout ce que vous avez besoin de faire pour aller mieux.
Et puis si on a envie d'être informé déjà, voilà, on peut aller voir des médecins, nous on est là aussi effectivement pour survoler certains sujets, vous aider, après nous on est plutôt sur la phase suivante, c'est-à-dire vous aider à aller mieux et à vous déstresser, voilà. Etc. Mais pour l'aspect purement médical, effectivement, rien ne remplacera jamais le médecin, bien évidemment, on le rappelle. Voilà.
Est-ce que tu veux qu'on continue ou...
Oh, bon, on peut faire une pause si tu veux. Moi, j'ai toujours pas mangé mon croissant. Je crains qu'à un moment donné, quelqu'un me le chourave sous le nez. Donc, je prends des risques.
À midi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'enlever le croissant. On va te mettre des cacahuètes.
Je pousserai avec le croissant le plat du midi, mais c'est pas grave. On va peut-être partir du coup en musique avec Lily Po. Ça va me laisser quelques instants avec son titre Ça ira. Et puis juste après, on continue d'évoquer cet univers, cet AVC et surtout tout ce qui peut être fait pour aller mieux et être zen au quotidien. C'est sur Open FM, c'est en direct, il est 11h23.
Croiser les doigts pour demain, se dire qu'hier c'était bien, parler plus fort quand on a tort, envoyer tout dans le décor, ne pas gagner à tout prix, cacher sa fierté à l'abri, étouffer les doutes, planquer les corps, je veux y rêver encore, et encore, et encore. Là dans la chambre évanouie, jouer du couteau, marcher sur l'eau, être l'enfant et le salaud, encore et toujours tourner la roue, se dire les autres c'est pas nous, brûler la vie, tromper la mort, je veux y rêver encore, ah, et encore, ah, et encore.
Peut-être pas partir en musique non plus, peut-être pas exagérer, parce que Jacques Boquet, faudrait quand même, à un moment donné, qu'il travaille, si vous voulez.
Hein, parce que sinon, on va me couper le micro et ça va être vite réglé.
Voilà, donc on va quand même repartir avec le bête musical. Puisque nous étions dans l'AVC, mais c'est le problème de manger des croissants, avoir les mains grasses, ça glisse. Je m'excuse par avance pour mes petits camarades qui arriveront tout à l'heure, Thierry, Philippe, Régis, qui vont retrouver une table de mixage toute grasse. Voilà. Sachez que c'est de la faute de Jacques. Voilà. De toute façon, de la boulangerie dans ma sac.
De toute façon, j'assume complètement.
C'est ça.
Il n'est pas question que je me prive de croissant.
Donc voilà, le tout c'est que je vais faire la technique avec mes coudes. Donc comme ça, ça sera plus simple.
J'ai eu peur là.
Oui, sur le coup. Je voulais dire, j'y ai pensé en le disant. Voilà. Redevenons sérieux, nous parlons donc de l'AVC, sujet qui l'est évidemment beaucoup. On a essayé de décrire un petit peu les symptômes qui peuvent conduire à un AVC.
La
et les.
Avec les coudes, c'est plutôt le mardi à 3h du matin.
Et donc on va poursuivre avec voilà. Avec quoi? Avec on va aller vers le cheminement, les solutionnements voilà. Peut-être.
Et surtout les principaux causes.
Elles sont multiples, on l'a dit déjà.
Pas les causes, les symptômes, pardon.
D'accord.
La façon de les détecter. Mais ce qui me fait peur, c'est ça. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Attention, quoi. Parce que c'est pas parce que vous avez mal à la tête que vous avez un AVC. Mais c'est pas parce que vous avez mal à la tête que vous n'avez pas un AVC. Donc,
si on a un doute, on peut. Voilà. Le tout, c'est de pas aller chez son médecin, de pas téléphoner à son médecin 4 fois par jour parce qu'on a un truc qui nous gratte, parce qu'on a si on a. Voilà. Donc, faut être raisonnable, mais attentif à ce que nous dit notre corps. C'est ce qu'on dit toujours dans cette émission.
Voilà. C'est pour ça que le problème, c'est difficile de traiter un sujet quand même aussi grave en le survolant d'une façon aussi légère qu'on le fait. On est simplement là pour dire voilà, ça existe et faites attention. Donc, un des premiers symptômes, c'est des étourdissements ou une perte soudaine d'équilibre. Un brusque engourdissement ou une perte de sensibilité ou une paralysie du vidage d'un bras, d'une jambe ou d'un côté du corps. La confusion, une difficulté soudaine à s'exprimer ou à comprendre. Une perte soudaine de la vue ou une vision trouble dans un seul œil. Un mal de tête subit une intensité exceptionnelle accompagnée parfois de vomissements. Dans tous les cas, on doit contacter les services d'urgence le plus rapidement possible. Donc voilà, ne traînez pas dans ces cas-là. Après, je ne pense pas qu'on puisse avoir tous les symptômes en même temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait voir, mais...
Parfois, on peut en cumuler peut-être deux, ou ça peut se voir. Voilà.
Je pense.
Mais c'est pas parce que vous allez vous lever du canapé que vous avez la tête qui tourne. Si vous êtes resté toute la matinée vautré sur le canapé à boire des coups et à regarder des films, c'est normal que quand vous vous leviez, il y a un petit coup, la tête qui tourne. C'est pas anormal. Mais voilà, faut essayer de faire un petit peu la part des choses.
Voilà. Donc les personnes qui sont peut-être plus sujettes à un AVC, on parle des personnes ayant déjà eu un accident ischémique transitoire, donc les mini-AVC ou un AVC, les personnes atteintes d'un trouble cardiaque, anomalie d'une valve cardiaque, insuffisance cardiaque ou arythmie cardiaque. L'arythmie, je rappelle, c'est un changement de rythme du battement de cœur qui s'accélère et qui ralentit sans aucune raison. Contrairement à, par exemple, quand on fait un effort physique ou on fait du sport, le cœur s'accélère.
Normal,
c'est normal, puisqu'on apporte un apport d'oxygène supplémentaire. L'arythmie, c'est un dérèglement de ce rythme cardiaque qui, sans aucune raison apparente. Donc, celles qui ont récemment subi un infarctus du myocarde. La fibrillation auriculaire, une forme d'arythmie cardiaque, est particulièrement dangereuse parce qu'elle amène le sang à stagner dans le cœur. Cela entraîne la formation de caillots sanguins. Si ces caillots circulent jusqu'aux artères du cerveau, ils peuvent causer un AVC. Les personnes diabétiques, le diabète contribue à l'athérosclérose et réduit la capacité de l'organisme à dissoudre les caillots sanguins. Et je rappelle, pour ceux qui prendraient cette émission en cours, que je ne suis pas du tout médecin et que je me contente de lire et de répéter ce que je trouve comme information sur Internet pour alimenter cette chronique tous les mardis matins. Mais il est bien évident que les personnes diabétiques, c'est pas moi qui l'ai inventé. Et donc, voilà, parce que des fois, en aparté, comme ça, on me dit que j'utilise un petit peu des termes médicaux et que faut que je fasse attention. En même temps, je peux vous donner l'adresse. Ça s'appelle passeportsanté.net. C'est vraiment un site qui a été écrit quand même par des professionnels. Et pour alimenter cette chronique de médecine douce, parce que j'ai pas la prétention de tout connaître et que ça serait trop compliqué, et j'ai pas fait médecine. Moi, j'ai fait cuisine.
C'est autre chose.
C'est une autre hymne. Voilà. Et donc, moi, je me contente bêtement de rapporter des informations et de vous lire.
Toi, tu es là pour l'après, pour le côté Reiki, si éventuellement on cherche des moyens de se détendre. On y viendra tout à l'heure.
Et c'est marrant parce que justement, le Reiki fait partie des 5 médecines parallèles qui peuvent éviter, pas les AVC,
limiter
les risques d'AVC.
D'accord.
Voilà. Donc, les personnes atteintes d'apnée du sommeil, l'apnée peut entraîner une hausse de la pression sanguine et contribuer à la formation de caillots sanguins. Les personnes qui souffrent de migraines à répétition, les personnes ayant un nombre élevé de globules rouges dans le sang, ce qu'on appelle de la polyglobule, et les personnes dont un proche parent a été atteint d'un AVC. Ça, c'est quelque chose que je découvre en même temps que vous, parce que je ne savais pas du tout, par exemple, que ça pouvait être...
Il y a une hérédité ou une sorte d'hérédité. Ouais.
Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez...
C'est-à-dire qu'il peut y avoir un facteur un terreau à risque peut-être au départ, mais ça n'empêche pas que certains qui n'ont pas du tout de famille qui ont connu ce souci-là ou quelconque souci.
Après, je pense qu'il faut faire attention parce que j'entends beaucoup les gens qui disent mon père est mort d'un infarctus, je vais en faire un, ma mère est morte d'un AVC, je vais en faire un. Et il y a une espèce de psychose comme ça qui se crée dans les familles et il peut y avoir aussi des gens diabétiques, on n'est pas diabétique de père en fils, et je pense pas. Le côté héritier me gêne un peu dans ces cas-là, mais bon, il faut malgré tout en tenir compte. politique, mais...
Est-ce que c'est pas... Est-ce que justement, on n'est pas en train de se dire, je vais me stresser parce que j'ai des intentionnements familiaux, et que du coup, c'est ça qui va nous créer les problèmes, finalement.
Je pense quand même qu'à la base, celui qui arriverait à guérir le stress complètement, je crois que celui-là, il a gagné, quoi, parce qu'il va éviter plein de problèmes. Les deux facteurs principaux de l'AVC, donc l'hypertension, c'est le facteur de risque le plus important. La haute pression sanguine affaiblit la paroi des vaisseaux sanguins, y compris ceux du cerveau. Et l'hypercholestérolémie, c'est pas moi qui l'invente, un taux élevé de cholestérol LDL, donc le mauvais. Et dit mauvais cholestérol, ou de triglycérides contribuent à l'artérosclérose et au durcissement des artères. Les autres facteurs, là on va tomber dans des choses très quotidiennes, le tabagisme contribue à l'artérosclérose. De plus, la nicotine agit comme un stimulant cardiaque et augmente la pression sanguine. Quant au monoxyde de carbone, présent dans la fumée de cigarette, il réduit la quantité d'oxygène qui parvient au cerveau parce qu'il se fixe sur les globules rouges à la place de l'oxygène. L'obésité peut être un facteur d'AVC, une mauvaise alimentation, la sédentarité, ce que tu disais tout à l'heure, la personne qui est peut-être trop souvent sur son canapé, même si on ne travaille pas, on a quand même le droit de marcher 30 minutes par jour. Le minimum conseillé par exercice dans la semaine, c'est 3h30 par semaine, donc c'est un
peu... Juste des par jour.
Non, mais ça correspond à 30 minutes par jour minimum.
D'accord.
Et simplement, ben, on n'est pas forcément obligé de faire 30 minutes de muscu ou de vélo ou de trucs. Simplement de bouger un petit peu, au moins marcher un petit peu et tout. Donc un stress chronique est aussi...
D'ailleurs, parce que tu parles de la muscu, mais certains font tellement d'efforts physiques avec la muscu, on sollicite beaucoup le cœur et le flux dans les artères, etc. Et c'est pas forcément très bon non plus quand on va dans un excès dans ce sens-là aussi. Et tu parlais du tabac, et on peut penser aussi aux boissons énergisantes, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, le Red Bull et compagnie. C'est pareil, il y a des gens qui sont accros à ça.
Non, il a pas dit.
Non, j'ai pas cité de marque, bien évidemment. voilà, on se dit que ces gens-là se rendent pas compte que ça accélère le rythme cardiaque. Alors, c'est, voilà, il y a le côté fun en se disant j'ai la patate, etc. Mais on se rend pas compte qu'on est en train de dérégler finalement des choses à l'intérieur du corps et qui peuvent aboutir à parfois des petites conséquences dramatiques.
Voilà. Alors, l'excès d'alcool ou de drogue dure, comme la cocaïne. Donc si vous prenez de l'héroïne, vous êtes longtemps, vous êtes tranquille. Et c'est ça que je comprends pas. Je veux dire, voilà, si tu parles de cocaïne, tu parles des drogues.
Un grand spécialiste.
Tu parles de rien. Ouais. Mais voilà, l'accès d'alcool. La prise de contraceptifs oraux, surtout dans le cas des femmes qui sont à risque et qui ont plus de 35 ans. Attention, mesdames.
Un excès de contraceptifs, c'est-à-dire il y a des femmes qui prennent 10 pilules par jour, c'est quoi l'idée?
Non, je pense qu'il y a peut-être certains contraceptifs qui sont... il y a peut-être des allergies, une forme d'allergie ou une contre-indication.
Respecter la dose.
Je ne sais plus combien il y a de sortes de pilules, en fait. Rien que dans les pilules, pour les femmes, je ne sais pas si c'est pas 80 ou 100, différentes micro-dosées, sur-dosées, trucs, machin. Donc voilà, c'est... On a, peut-être si un jour ça vous intéresse, on fera une émission sur la pilule.
On a fait les règles, alors un cheminement assez logique.
L'hormonothérapie de remplacement administrée au moment de la ménopause. Donc voilà, quand vous prenez par ménopause, vous prenez quelque chose qui remplace les hormones, mais sachez que ça peut provoquer, ça augmente les risques d'AVC. Si on dit que ça peut provoquer, tout le monde va arrêter de prendre la pilule, il va y avoir un taux de natalité qui va être d'un coup complètement démentiel. Alors, pour prévenir tout ça.
Ah, voilà, parce que nous on est là quand même là pour donner des solutions.
Au moins des bonnes nouvelles.
Voilà.
Alors,
il y en a.
Selon le guide de prévention de l'accident cérébral vasculaire, édité en 2011 par l'American Heart Association, n'est-ce pas, les personnes ayant des habitudes saines de vie réduisent de 80% leur risque de subir un premier AVC par rapport à celles qui négligent les facteurs de risque. Donc, adopter des attitudes de vie saines, ne pas fumer, éviter les excès d'alcool, trouver le moyen d'intégrer des activités physiques, tout ça on l'a déjà dit, maintenir un poids santé. Pour calculer, et là par contre je pense que je vais hurler, pour calculer votre indice de masse corporelle, le fameux IMC, il faut faire un test, je crois qu'il faut diviser
le poids
par la taille ou la taille par le
ça
poids,
veut rien dire.
Et donc on vous met dans un joli moule, et si vous dépassez de 500 grammes, votre IMC n'est pas bon. Et
ouais. On ne sait pas si c'est du muscle ou du gras, les 500 grammes en question. Dans mon cas, par exemple, on peut me comparer avec un grand rugbyman ou un grand sportif qui a une masse musculaire importante, et moi qui ai une masse croissantaire qui était très importante également, ça n'a rien à voir, on est bien d'accord.
Ouais, mais le problème c'est que voilà, je pense que effectivement, pas fumer, éviter les excès d'alcool, ça me parle bien. L'IMC, si on commence à dire que tous les gens qui font 1m70 doivent faire 70 kilos, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà. Par contre, faire des bons choix alimentaires. L'alimentation influe sur plusieurs facteurs de risque d'AVC. Les chercheurs ont passé en revue 375 études paries entre 1979 et 2004 afin de cerner le type d'alimentation qui contribue le mieux à prévenir les AVC. Selon leurs analyses, une alimentation pauvre en sel moins de 1150 milligrammes par jour, pardon, est riche en potassium et en magnésium, abaisse la tension artérielle et de ce fait contribue à prévenir les AVC. Une alimentation riche en fruits et légumes fournit généralement des quantités adéquates de potassium. Les céréales entières, les noix, les graines, les légumineuses et les légumes à feuilles vert foncé sont de bonnes sources de potassium. Les études montrent que les personnes qui consomment environ 10 portions de fruits et légumes par jour, 10 portions, on n'est pas à 5, là, on est à 10. Ouais.
Avec le budget qui va avec.
Voilà, avec le budget qui va avec. Qui privilégient les céréales en grains entiers et qui mangent de 1 à 2 portions de poisson gras par semaine courent moins de risques d'AVC.
Pour ceux qui vont chez McDo, évidemment, tous les repas. Alors, ou Quick ou KFC, pardon.
Je sens la colère monter.
Avoir des problèmes déjà. Il y a Red Bull qui vient de m'envoyer un mail. Alors
si en plus il y a McDo qui s'en mêle, mais enfin, en même temps, venez comme vous êtes. Hein, pas de souci. On en parlera. Alors pour ce qui est des régimes, il est démontré que les DASH, donc DASH. Donc, je ne sais pas ce que c'est.
Mais une marque de lessive, mais je pense que ça n'a pas de rapport avec ce que tu nous racontes.
Et donc le fameux régime méditerranéen aide à prévenir l'hypertension d'une façon efficace. Pour en savoir plus sur les régimes, consultez les fiches d'hypertension. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est consulter Laura le lundi par rapport à ça, puisque la diététicienne d'Open FM se fera un plaisir de vous recevoir et de vous faire un petit menu personnalisé pour vous aider dans votre...
Elle nous a déjà expliqué que le sel était dangereux, que voilà, ouais. C'était... Plus, il y a plein de choses. Tout ça, on a besoin de tous ces éléments, le tout, c'est pas en abuser. Voilà.
C'est comme tout, faut pas en abuser. Le sel, de toute façon, est un fluidifiant du sang, et en plus, le sel fait monter la tension.
Donc, boire de l'alcool n'est pas interdit, le tout, évidemment, c'est dressé dans des normes raisonnables.
Après, c'est comme l'histoire, parce qu'on tombe vite dans les excès, c'est comme la personne qui un jour a sorti, que le whisky, par exemple, débouchait les artères. Donc il y en a qui boivent un litre par jour. Ils ont toujours les artères bouchées, mais...
Ou alors elles sont débouchées, mais il y a d'autres problèmes.
Par contre, ils prennent bien leurs médicaments. Ils sont très fidèles dans la...
Le seul excès possible, c'est l'écoute d'Open FM. Donc ça, vous pouvez y aller pour votre bien-être. Voilà. C'est garanti, et là, c'est sans limite.
C'est toujours la musicothérapie.
Exactement.
Et sinon, donc, pour les femmes, changer de méthode contraceptive si c'est nécessaire. Ouais. Les femmes de plus de 35 ans qui prennent une pilule contraceptive et qui sont considérées comme un risque, parce qu'elles fument ou qu'elles boivent, devraient opter pour une autre méthode contraceptive. Voilà. Donc surtout, consultez votre médecin, faites surveiller votre tension artérielle, etc. etc. Donc on arrive... Mais après, il y a des choses qui sont quand même assez évidentes, on va dire. Je veux dire, on n'a pas besoin de tout chercher sur Internet. Oui. Ça, par contre, c'est le gros défaut. Et ça, je voulais le dire absolument. Même moi qui suis en train de chercher pour les prochaines émissions et tout, je trouve des aberrations sur Internet. Donc, quand on commence, je connais des gens qui vont sur Internet, qui commencent à dire, voilà, j'ai tel et tel symptôme. Donc, ils vont chez leur médecin en disant, médecin, j'ai ça.
Ouais.
Et là, il faut arrêter. Là, faut arrêter parce que là.
C'est vrai dans plein de domaines, mais surtout dans l'univers médical, quand on a un petit bobo, quand le médecin vous dit quelque chose, faut arrêter d'aller chercher des infos sur Internet, parce que voilà, on ne sait pas qui les a écrites déjà, et ça peut jouer aussi sur le moral, donc tout ça c'est important
Il y a un grave danger, mais ça un jour on aura l'occasion peut-être de faire une émission là-dessus, parce qu'hier j'ai participé à un séminaire sur le Reiki, et en fait on en a parlé un petit peu. On tombe dans une espèce de banalisation du problème, de vulgarisation du problème. C'est-à-dire que la personne dit, voilà, j'ai mal à la tête, j'ai le nez qui coule, j'ai 39 de fièvre, j'ai forcément une grippe et ça va se transformer en pneumonie. Mmh. Et je pense que ça, il y a vraiment un réel danger. Il y a vraiment un réel danger et ça, il faudrait vraiment prévenir les gens. Internet n'est pas là pour faire un diagnostic médical et c'est pas parce que votre voisine a mal à la tête et qu'elle a fait un AVC que si vous avez mal à la tête, vous allez faire un AVC. Et là, je pense qu'il faut vraiment être prudent parce qu'on tombe un petit peu dans des excès, dans toutes sortes et dans cette espèce de vulgarisation. Ça veut dire que bientôt, les médecins n'auront même plus besoin de faire 8 ans d'études. Il suffira d'aller sur Internet, de dire voilà, ben, j'ai tel et tel symptôme, on tape dans la barre de recherche,
voilà.
Et on va nous dire, ben,
vous coche les cases et puis voilà.
Voilà, et vous allez mourir demain. Donc ça, par contre, je voudrais quand même prévenir parce que même si les magnétiseurs, les maîtres de Reiki et le reste ne s'entendent pas forcément très bien avec la médecine en général et on n'est pas forcément potes, pour différentes raisons, il faut quand même reconnaître que les médecins font quand même un travail, font des études par rapport à ça et tout. Et cette émission, elle est là pour dire aussi, ben voilà, attention quoi, attention parce que ça sert à rien de faire ça et malheureusement c'est de plus en plus. Et alors là où c'est grave, et on aura vraiment l'occasion de le rappeler à plusieurs fois, c'est bon, à la limite un adulte fait un diagnostic sur Internet, va à la pharmacie, fait de l'automédicamentation, ce qu'on appelle, donc bon, mais c'est bien, tant mieux. Par contre, il y a des fois qu'ils font ça pour un enfant et là il faut faire attention quoi.
Donc, voilà, et que les ados n'aillent pas chercher parce que ce sont les premiers à être sur les réseaux sociaux et sur Internet, donc attention, voilà, pour les plus jeunes, on passe par le médecin. Nous ne sommes pas médecins, on le dit dans cette cette émission, mais Internet n'est pas un médecin non plus. Voilà. Donc allez voir directement les vrais professionnels.
Donc on va juste terminer en rappelant les 5 techniques de médecine parallèle qui peuvent, alors, ne pas soigner l'AVC, c'est pas le but, c'est soigner le stress, c'est soigner l'hypertension, c'est
limiter les risques.
Voilà, limiter les risques. Donc en premier, le Qigong. Donc d'après une synthèse d'études cliniques, c'est quand même sérieux, les personnes hypertendues qui pratiquent le Qigong courent le moins de risques de souffrir d'un accident vasculaire cérébral et d'en mourir. De plus, le Qigong diminue parfois l'hypertension. En ce faisant, il permet de réduire la médication visant à traiter l'hypertension. Donc ça, c'est très important, puisqu'il peut y avoir aussi des problèmes par rapport à la compatibilité du médicament.
D'accord. Moi qui regardais beaucoup quand j'étais jeune la série Sauvé par Qigong, je sais pas si c'est si ça marche, mais bon, je suis parti sur de bonnes bases.
Qu'est-ce que je peux faire?
Là, il y a les très jeunes qui se disent de quoi ils parlent. Mais bon.
Oui, très jeune, parce que là, ça. Même moi, je sais pas si j'ai déjà vu cette émission. Donc, cette série.
Alors, ensuite, j'embrasse Kelly au passage. Allez, deuxième technique.
On en saura pas plus. L'acupuncture. Donc, est utilisée depuis des siècles en médecine traditionnelle chinoise. Mais les études scientifiques sur le sujet ne font que débuter en 2005. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile. Mmh. Par contre, il y a une étude qui a été faite sur 1208 patients. C'est très précis. Ayant subi un AVC, les séances d'acupuncture débuteraient de 10 à 30 jours après l'accident et se dérouleraient pendant 7 à 10 semaines. Les résultats obtenus indiquent que l'acupuncture peut exercer un effet bénéfique à long terme. Un an après leur AVC, les personnes ayant bénéficié de séances d'acupuncture avaient moins de risques de mourir que les personnes des groupes témoins ou placebo et elles couraient moins le risque de souffrir d'une perte d'autonomie.
Donc c'est bien, ça veut dire qu'on peut prévenir en amont, mais si ça nous arrive, il y a aussi des moyens d'essayer d'apaiser les choses.
Ensuite, il y a le biofeedback, ce qu'on appelle. Donc quelques études suggèrent que le biofeedback par électromyographie associé à la physiothérapie augmenterait la récupération fonctionnelle et la qualité de la démarche des parents. Des patients, pardon, des parents. Toutefois, dans l'ensemble, les données concernant les bienfaits de cette technique sont pour l'instant très limitées. Donc la quatrième technique, c'est le Reiki. Donc le Reiki pourrait apporter un soutien, voilà, au cours de. Ben, ça me fait plaisir aussi qu'on cite dans un espace plus ou moins officiel. Ouais. Donc le Reiki pourrait apporter un soutien au cours de la réadaptation des victimes d'AVC. Les résultats d'une étude menée auprès d'une cinquantaine de volontaires ayant subi un AVC montrent une certaine amélioration de l'humeur, un regain d'énergie après une dizaine de séances de 30 minutes chacune. En revanche, aucun effet n'a été observé sur le développement de l'autonomie, sur le soulagement des états dépressifs. Ouais. Par contre, c'est vrai que le Reiki peut quand même aider sur l'hypertension, le stress, tout ce qui nous gêne depuis le début. Mmh. Ensuite, il y a la visualisation et imagerie mentale. Donc, selon une revue systématique publiée en 2010, la visualisation associée à la psychothérapie, à la physiothérapie, améliorerait la réadaptation des personnes ayant subi un accident. Il y a la méthode Feldenkrais, donc c'est le docteur André Well. Recommande qu'on pratique la méthode Feldenkrais en plus de traitements classiques durant la période de réadaptation qui suit un AVC. Cette approche aide le système nerveux à trouver de nouvelles voies pour compenser les dommages neurologiques. Et la dernière technique, c'est une technique de relaxation. On peut aussi méditer. La respiration profonde ou toute autre technique de relaxation employée régulièrement aide à évacuer le stress. Voilà, on est toujours dans ce domaine-là. C'est quand même pénible parce qu'on a l'impression de se répéter comme ça, mais voilà, c'est le stress est quand même la cause de, pour l'instant, 90% de tous les problèmes qu'on a parlé. Donc c'est quand même.
Donc il faut jouer là-dessus déjà avant tout pour essayer de limiter les risques. Encore une fois, on n'est pas là pour vous dire comment vous n'aurez pas d'AVC ou comment vous allez guérir de l'AVC, mais comment vous allez limiter les facteurs de risque. Ouais. Voilà pour ces petites infos. On marque une pause et puis
La dernière ligne droite.
Voilà, les 10 dernières minutes de l'émission suivront. Si vous voulez témoigner, il est encore possible, hein, il n'est pas trop tard. 05 55 56 21 44. On va tenter d'être plus OK que KO avec le titre d'Emiliana qui était en compétition pour représenter la France à l'Eurovision. Elle n'a pas été retenue puisque c'est madame monsieur avec merci qui seront à Lisbonne le 12 mai prochain, mais Emiliana est en tous les cas dans la playlist d'Open FM tout de suite.
Qui m'a dit comment demain sera? Si j'aurais froid, si j'aurais chaud, je serais OK ou KO. Qui me dit comment demain j'irai? J'aurai des bas, j'aurai des hauts. Je serais OK ou KO. Je serais OK ou KO. Je serais OK ou KO. Mais c'est moi qui décide. C'est moi qui la dessine. Vers à moitié plein. Si les
nos choix. Le monde est ce qu'on en fera. Il sera ok ou KO. Il sera ok ou KO. Il sera ok ou KO.
Et l'actu santé, nous en avons parlé, on a parlé de l'AVC hein, qui n'est pas forcément une actu santé, quoique de plus en plus, on le disait, hein, avec le développement du stress et de notre vie au quotidien, d'où l'intérêt de se détendre, de se faire du bien avec cette émission déjà, pilotée par Jacques Bocquet, vous le savez, tous les mardis entre 11h et midi, et vous aurez les coordonnées de Jacques tout à l'heure pour eh bien pouvoir le contacter et aller au-delà de cette émission
en privé,
voilà, faire du Reiki, on va vous redonner tout ce que Jacques vous propose dans un instant, voilà. Et puis bah tout ça c'est pas uniquement au travers du Reiki, ça peut être plein de techniques. Voilà. On les évoque chaque semaine en fin d'émission. Donc on va poursuivre notre abécédaire.
On est à 240, mais on est loin des 240.
Déjà on est à la lettre N et encore N. On les survole. Hein, c'est ouais. Pour vous donner comme ça cette petite liste. Mais
après je vous rappelle qu'on les reprendra vraiment une par une et on y consacrera 20 ou 30 minutes par émission. Et on fera, quand on aura fini de survoler cette liste de techniques parallèles, de médecine parallèle, on fera à peu près une technique sur 30 minutes et une maladie ou un problème sur 30 minutes.
Donc on a encore de quoi faire. Vous n'êtes pas débarrassé de nous.
Non, c'est clair.
Sachez-le. Alors dans notre à la lettre N.
Alors,
qu'as-tu à nous proposer ?
N, il y a ce qu'on appelle la naturopathie, donc qui vise à rééquilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens naturels, alimentation, hygiène de vie, phytothérapie, massage, exercice, etc., etc. Donc on est toujours pareil, on est toujours d'accord. Il y a des gens qui, comme Laura, que vous retrouvez le lundi, qui est donc nutritionniste. Je crois, je me trompe pas, qu'est-ce
nutritionniste. Diététicienne, nutritionniste voilà, et
hypnothérapeute.
Soyons complets.
On en a parlé un tout petit peu. D'ailleurs, on pourrait peut-être lui lancer un message qu'elle se prépare parce que le mardi matin où on parlera d'hypnothérapie, on aura peut-être le plaisir et la joie de la recevoir.
Elle viendra nous voir.
Voilà. Et comme ça, elle sera peut-être plus à même d'en parler que moi parce que je connais pas les 240 techniques. Et voilà, malheureusement. Donc, la naturopathie, je rappelle, donc visant à rééquilibrer le fonctionnement de l'organisme. Et des gens comme Laura, les nutritionnistes il y a 10 ans, je pense, c'était très peu écouté, très peu regardé. À la limite, presque on disait, oh, on s'en fout, quoi. On a envie de manger du foie gras, on mange. Mm. Et là, je pense quand même que là,
aujourd'hui, ça paraît une norme, une évidence. Ouais. C'est acté.
Ça fait partie des gens qui, pour moi, ce qui sont importants dans notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que les gens comme Laura, puisqu'on en parle, peuvent vous conseiller sur une alimentation, sur tout ça. L'hypnothérapie peut vous aider, par exemple, à remonter à la source un petit peu de votre problème, ce qu'on appelle faire des régressions ou remonter un petit peu dans le passé. Et vous pouvez très bien terminer par une séance de Reiki magnétisme ou autre chose. Je veux dire, des fois, le fait d'associer plusieurs thérapies n'est pas non plus interdit. Une thérapie va pas en bloquer une autre. Mmh. Donc, il n'y a pas de préférence. Mais par contre, c'est vrai que si vous commencez à avoir une alimentation qui est équilibrée, qui est saine, vous pratiquez un petit peu d'exercice, vous avez fait un petit peu une régression pour comprendre vos problèmes, et une fois par mois, vous faites une séance de Reiki pour vous détendre et enlever le stress, vous mettez toutes les chances de votre côté. Mmh. On est quand même bien d'accord là-dessus.
Évidemment.
Ensuite, la deuxième technique, la thérapie neurale, de Bruno Gröning, qu'on connaît bien sur cette antenne.
Bien sûr.
Donc, transmission d'énergie manuelle à la frontière entre médecine et foi. Ça, c'est... Je ne sais pas trop comment il faut le prendre.
Mm-hmm.
Voilà. Après, en même temps, on ne parle pas du foi. On ne parle pas du foi, on parle de la foi.
De la foi, d'accord.
Ça, ils vont se dire, ça, ils ont pété la calamine. Et ensuite, il y a la nutrition signalée. Donc, régime alimentaire proscrivant les aliments à base de céréales mutées, blé, maïs, seigle, ainsi que les produits laitiers animaux. Les aliments crus ou cuits à basse température, maximum 110 degrés, sont conseillés. Les aliments biologiques sont privilégiés. Donc ça, c'est quand même intéressant.
Oui, il reste plus grand-chose à manger, en fait, surtout.
Pourquoi ?
Parce que les céréales mutées, je crois qu'aujourd'hui, elles le sont toutes, plus ou moins. Donc... C'est quelque chose pour mincir, a priori.
Voilà, donc, c'est ça.
Voilà.
Ensuite, ben, on va attaquer la lettre O. On n'avait pas prévu.
Bah, je pense qu'on va terminer avec la lettre O, puisqu'on va arriver dans les 5 dernières minutes de l'émission.
Déjà ?
Ben oui.
Mais sans rire, c'est pas possible.
Mais t'as combien de O, là, dis donc ?
J'ai jamais de O, j'en ai 7.
Ah oui, donc.
On va pas tout faire.
Alors, on va faire les premiers de ta feuille, et puis voilà. On lassera la feuille d'après pour la semaine prochaine. Allez.
Eh ben, super. Donc, l'oligothérapie. Corriger un dysfonctionnement métabolique en administrant des oligo-éléments. Alors, un petit exemple d'oligothérapie. On va bientôt arriver au printemps. Oui. Il faut y croire. Même si
s'il n'y a pas de soleil, ça sera quand même le printemps.
Voilà, même si les signes ne sont pas très annonciateurs du printemps, mais en principe, le printemps, c'est le 21 mars.
D'accord.
Jusque-là, on est d'accord. Et donc, en fait, par exemple, sachez qu'au niveau des oligo-éléments, à partir du 21 mars, non, dans la première semaine d'avril ou la dernière semaine de mars, comme vous voulez, on n'est pas obligé de faire ça le 21 pile, on fait en général ce qu'on appelle une cure de zinc. Donc le zinc, on trouve en oligosol. Ce sont des petites ampoules. Il y a 12 ampoules. Ça vaut 3,50 € ou 4 €. Et en général, on fait une petite séance de zinc, donc d'oligothérapie, entre l'hiver et le printemps. Et on fait une séance de zinc entre l'été et l'automne. Donc deux fois par an. Une petite cure comme ça de zinc. Ça évite les coups de fatigue liés au changement de saison. Puisque quand la nature redémarre au printemps, ben nous aussi on redémarre. Il y a l'énergie qui monte.
On bourgeonne.
Il y a la sève qui monte, tout ça.
Et donc, j'étais dans la poésie, il vient tout gâcher, c'est un truc de fou ça.
Et donc en fait, voilà, on n'est pas forcément préparé, on est un petit peu fatigué, et voilà, donc une petite cure de zinc peut très bien aider. Il y a des choses qui peuvent aider, par exemple, sur des problèmes un peu plus graves, comme l'agoraphobie, qu'on aura l'occasion un jour d'évoquer. Voilà, il y a des techniques à base de d'oligo-éléments qui sont très importantes. Donc, sous-estimer.
C'est pas qu'on est agoraphobe, c'est juste qu'il fait un temps pourri, donc voilà. On n'a pas envie de sortir.
En oligo-éléments, ce qui marche bien en ce moment, c'est un mélange qui s'appelle cuivre-or-argent. On va renforcer les défenses immunitaires. C'est pareil, c'est une petite ampoule à boire comme ça tous les matins. Et rassurez-vous, il n'y a pas un lingot d'or dans l'ampoule. Il y a juste 3,000 millionième ou milliardième de gramme d'or. Il y a vraiment un petit gramme d'argent, enfin une petite particule d'argent et une petite particule de cuivre. C'est même pas des éléments, c'est des particules. Mais ça renforce les défenses immunitaires. Et par rapport, quand il fait un temps comme ça, voilà, ça fait un petit peu de bien et ça permet d'éviter d'attraper un peu tout ce qui passe.
Et dernier O pour aujourd'hui.
Et donc, dernier O pour aujourd'hui, c'est l'organothérapie. Donc, consiste à l'utilisation d'extraits de tissus ou d'organes de même nature que l'organe déficient à traiter. Ça peut peut-être être une greffe ou remplacer un organe par un autre. Donc, voilà.
Et ben
ça, c'était bien hein, quand même.
Donc, les premières techniques en O de ces médecines douces, il y en aura d'autres. Hein, donc, il y en aura 5, a priori, autres à détailler la semaine prochaine, puisque tu reviendras évidemment nous voir.
Oui, ben écoute, si
tes travaux ont bien avancé déjà.
Si mes travaux ont avancé, si j'ai pas de soucis de voiture, si il y a pas de neige, si je trouve de l'essence.
La neige, c'est pour jeudi soir et vendredi normalement.
Il faut vraiment se préparer très longtemps à l'avance pour cette émission.
On ne laissera rien passer. Et on parlera de plein de choses évidemment la semaine prochaine. Avant de se quitter, puisqu'il nous reste moins de 4 minutes, on va parler un peu d'actu. En l'occurrence, de ton actu, de ce que tu proposes à nos petits camarades, ceux qui t'écoutent religieusement chaque semaine dans ce rendez-vous, qui téléchargent les podcasts, et de plus en plus nombreux d'ailleurs.
Par contre, là, alors là, merci et félicitations, parce que c'est vrai que...
Vous êtes des personnes de goût.
Vous êtes des gens à fréquenter, politiquement corrects, on va dire.
Voilà, sachez qu'ils ne gagnent rien sur les téléchargements d'eux, donc ils disent ça, voilà.
Mes parents, c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Quand on a démarré au mois de septembre, on était à 4 téléchargements de podcast par semaine. Voilà. Là, on n'a pas franchi la barre des 50. On s'approche des 60. Donc, je trouve que c'est bien. Et puis, que ça me fait vraiment plaisir. Donc, ça me donne aussi envie de continuer cette émission avec toi.
J'espère.
Et donc, voilà.
Celle d'aujourd'hui, elle est en ligne dans même pas 10 minutes. Hein. Midi 5, on vous met là. Donc, ça veut dire que si vous voulez celle de la semaine dernière, dépêchez-vous, allez sur le site pour la télécharger, pour cliquer. Vous allez sur radio.fm.fr. C'est à l'onglet téléchargement et vous choisissez la rubrique, évidemment, Mon Corps et Moi.
Oui.
Donc, en dehors de cette émission, évidemment, on peut venir te rejoindre pour faire quelques emplettes ou participer à des ateliers, des séances.
Des séances de Reiki, des séances de magnétisme, plein de choses à découvrir. D'autres choses que je ne parlerai pas maintenant. Parce que, voilà.
On va sur le site Invisio Veritas.
Sur le site Invisio Veritas ou sinon la boutique à l'Ubersac ou sinon le 09 87 16 80 25. On peut toujours discuter, boire une petite affût, voilà.
Voilà. Être détendu, zen, et limiter tout risque d'AVC. Vous voyez que vous êtes bien là-bas.
Et par contre, la semaine prochaine, on parlera d'achondroplasie. C'est une maladie.
Reste correct déjà.
Oui, oui, bien sûr. Donc voilà, c'est un achondroplasie, c'est une maladie rare et on verra la semaine prochaine à partir de quoi ça parle. En fait, je vous demande juste un petit truc, c'est une forme de rétrécissement ou d'allongement des membres. Alors, je vois tout de suite les sourires.
J'avais même pas pensé à ça.
Et en plus, il n'y a pas un côté qui s'allonge et un côté qui rétrécit. Parce que si tu as le bras droit qui perd 10 cm et le bras gauche qui en rajoute 10, donc c'est ou ça rétrécit ou ça s'allonge. Mais
d'accord.
De tous les membres.
Donc, on en saura plus la semaine prochaine.
Voilà.
Soyez avec nous. Et puis, on a parlé des travaux dans la boutique qui vont se poursuivre encore. Hein. Alors, ça touche au but.
Oui, mais
ça avance bien.
Je peux pas être à la radio en train de peindre les planches, les poteaux.
Peut pas être partout.
Manger avec des amis, partir en week-end. Enfin voilà, j'essaie de. Et quand je peux pas percer les trous la nuit parce que les voisins seraient pas trop contents, ben ça prend un peu de
temps. Ça prend le temps, mais ça va finir par se peaufiner.
Oui.
Et puis, on peut préciser aussi, on est dans le secret des dieux, mais qu'il est possible qu'un site internet, un nouveau site internet voit le jour. Mais voilà, ça reste entre nous.
Ouais.
Sachez que vous serez les premiers avertis, évidemment, de l'adresse à laquelle vous connectez. Ce sera une, on peut dire, une espèce de petite boutique en ligne.
Voilà, une petite boutique en ligne.
Voilà, qui vous permettra, si vous ne voulez pas aller jusqu'à l'Ubersac, de profiter quand même des bons produits et des bons soins de Jacques. Jacques qui revient donc la semaine prochaine.
Avec plaisir.
11h midi sur Open FM. Et bah, écoutez, d'ici là, nous, on va jeter un petit coup d'œil sur le programme à venir pour terminer la journée. Moi, je vous dis ensuite à demain, 7h. Et donc, à mardi, Jacques.
Ciao, bonne semaine.
C'était Mon Corps et Moi, le rendez-vous des médecines douces et naturelles. Partez à la découverte de votre corps et de son langage pour apprendre à mieux vous comprendre. Avec Jacques Bocquet, magnétiseur. À retrouver au 06 59 84 93 58. Et sur les sites et pages Facebook InVisio Veritas.